entre dans la cabane sur Radio Pulse. Salutations et bienvenue dans la cabane. Je m'appelle Pierre et nous allons passer un petit moment ensemble, au calme, dans une ambiance détente et groovy, à l'intérieur de notre petit cocon constitué de planches de bois qui fleurent bon la forêt. Ici, je vous passe de la musique et vous conte l'histoire des artistes tout en détaillant les textes des chansons lorsqu'ils en sont dignes d'intérêt. La playlist, elle sera, comme d'habitude, très variée, donc si vous êtes curieux, ça devrait vous plaire. Enfin bref, tire-toi une bûche et prends place pour un petit moment dans la cabane, hors du temps. C'est l'heure de la cabane sur Radio Pulse. Et nous allons démarrer l'émission avec le tout récent morceau Champagne de Declan McKenna. Dans ce titre sorti fin octobre, le Britannique, comme à son habitude, nous propose un titre énergique qui vient poser une critique et un regard acerbe et ironique sur ce qu'on pourrait appeler la haute société. D'où donc le titre de la chanson Le Champagne, donc qui ici, en tant que boisson de luxe, représente cette haute société. Il dépeint donc ici la haute société comme une entité qui profite des autres, qui profite des moins puissants, qui profite de leur argent, comme le représente bien l'une des phrases du troisième couplet. Je cite « Je vais danser comme si nous n'utilisions pas l'argent de quelqu'un d'autre ce soir ». Effectivement, ça se confirme puisque dans le clip, Declan McKenna joue le rôle d'un serveur, représentatif donc ici des gens d'en bas, entre guillemets, qui sert donc une table d'hommes d'affaires bourrins et tout ce qu'il y a de plus insupportable. Des hommes et des femmes d'affaires bling bling et peu raffinés qui mettent par exemple des tonnes de ketchup sur leurs légumes tout en faisant semblant de manger quelque chose d'extraordinaire avec un goût si fin. Mais cette tablée finit ensuite par être mécontente de l'un de leurs plats et engueule le serveur comme du poisson pourri, avant de finir par menacer le cuisinier avec une arme à feu. Une image qui représente ici la domination des plus forts sur les plus faibles. On a donc l'idée en tête, donc le titre, et le titre Champagne, c'est bien vu de l'appeler comme ça, pour au final chier sur tous ceux qui en boivent. Mais bon, les fêtes approchent et vous aurez le droit de boire votre petite flûte sans vous sentir coupable, ne vous en faites pas. C'est parti pour Champagne de Declan McKenna.
Like we ain't using somebody else's money tonight. cats have left themselves for dead. Tripped and killed the boss. Well, you know I never mean what I say, but I'm sorry for your loss. I know you do well.
C'était Champagne de Declan McKenna. Quittons à présent les strass et paillettes pour revenir dans un univers plus réaliste qui oscille entre ombre et lumière. Ce monde mi-figue mi-raisin, c'était le nôtre, celui des années 90, décennie dans laquelle l'histoire de The Verve a démarré. Tout commence donc en 1990 à Wigan, une petite ville du nord-ouest de l'Angleterre, et c'est là-bas que Richard Ashcroft, le leader charismatique du groupe, rencontre Nick McCabe, le guitariste au riff psychédélique. À eux s'ajoutent Simon Jones à la basse et Peter Salisbury à la batterie. Voici donc l'intégralité du groupe The Verve à l'époque. Dès leurs premières notes, ils marquent leur différence avec un rock empreint de spiritualité et de texture hypnotique. Leur premier album, A Storm in Heaven, est, comme son nom l'indique, un voyage au-delà de nos frontières, tout là-haut dans le ciel. Mais ce n'est que le début de leur aventure, car c'est avec leur deuxième album, A Northern Soul, sorti en 1995, qu'ils toucheront un public plus large. Cependant, comme d'habitude, quand la célébrité arrive, ça rime avec tension au sein du groupe. Enfin, ça ne rime pas vraiment, mais voilà, vous comprenez comme d'habitude. Donc, c'est à ce moment que Richard Ashcroft, notre leader au caractère bien trempé, peut-être un petit peu toxique, quitte l'aventure. Mais heureusement pour tous les amateurs de musique, le groupe va se rabibocher en 1997 pour accoucher de leur chef-d'œuvre ultime, Urban Hymns. Et qu'il est beau le divin enfant, puisqu'il contient notamment le morceau Bittersweet Symphony. Petit aparté, hein, donc est le morceau que je vais vous diffuser après, petit aparté, mais la mélodie de ce morceau est tirée en partie, j'insiste, en partie, d'un sample depuis un morceau des Rolling Stones, un sample pour lequel ces derniers avaient donné leur accord pour utilisation, ce qui ne les a pas ensuite empêchés d'engager des poursuites judiciaires envers The Verve, voyant le succès planétaire qui est devenu Bittersweet Symphony. Un peu triste d'en arriver là pour un groupe qui se voulait porteur de l'esprit, rebelle, etc. Un peu décevant. Bref, l'important c'est que The Verve, avec ce morceau Bittersweet Symphony, est sur le toit du monde. Mais comme tout projet ambitieux, des fissures vont apparaître. Le groupe se sépare ainsi en 1999, usé par les conflits internes qui ont dû rester quand même un petit peu présents malgré la séparation puis le retour de Richard Ashcroft, et aussi à cause des pressions de l'industrie. Ashcroft va donc se lancer en solo, tandis que McCabe et les autres vont poursuivre des carrières plus discrètes. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 2007, The Verve va se reformer pour un dernier album, Force. Force, pas F-O-R-C-E, hein, Force F-O-R-T-H, prouvant que l'énergie créative peut renaître même dans les situations les plus complexes humainement parlant. Le groupe peut donc se targuer d'avoir ressuscité deux fois, soit une fois de plus que Jésus. Voici la puissance incroyable de la musique et toc. D'autant plus que The Verve ne mourra jamais, puisque leur musique, à la fois introspective et universelle, continue et continuera de résonner dans nos playlists comme dans nos âmes. Sans surprise, c'est leur morceau, comme je vous l'ai annoncé juste avant, Bittersweet Symphony, que je vais décortiquer pour vous. Un titre qui pourrait se traduire par « Symphonie aigre-douce ». Dès la première phrase du couplet, on nous annonce que cette symphonie aigre-douce, en fait, c'est la vie. Complexe comme une symphonie, tantôt aigre, tantôt douce comme la vie. Une vie dans laquelle nous sommes esclaves du capitalisme, une vie dans laquelle on court après l'argent jusqu'à la mort. Mais pour tenter ensemble d'aller contre le système, Ashcroft va nous emmener là où toutes les veines se rencontrent, c'est-à-dire dans son cœur. S'ensuit donc le premier refrain, une sorte de récit introspectif dans lequel il débat contre lui-même. « No change, I can change, I can change, I can change. » je peux changer, mais il est bloqué dans son moule qui lui est imposé par la société. Le voilà donc obligé de jouer des millions de rôles toute la journée, sauf le sien, sauf sa réalité à lui, puisqu'il n'arrive pas à quitter ce moule qui lui est imposé. Dans le second couplet, Ashcroft se met à genoux à la recherche de soutien. Il cherche des gens qui vivent la même douleur que lui, mais personne ne lui répond. C'est pour cela qu'il entame un nouveau refrain dans lequel, faute de trouver des gens, il va se parler à lui-même. On l'entend donc se murmurer, se chanter pour lui-même « I can change, I can change, I can change », etc. Le troisième couplet est ensuite une répétition du premier qui va venir insister donc à nouveau sur ce côté aigre-doux de la vie et sur la soumission de nous, la race humaine, au capitalisme avant donc une dernière fois d'entamer un refrain. On terminera donc la chanson en écoutant le fort intérieur de Richard Ashcroft en plein débat interne tentant de trouver du courage pour sortir de son moule et pour changer. Enfin voilà, une magnifique chanson de rock instrumental, on ne s'en lassera jamais de celle-ci, je crois. On est donc parti ensemble pour un voyage dans la symphonie aigre-douce de The Verve. Est-ce que c'est pas beau ça? C'était Bittersweet Symphony de The Verve. C'est donc cette note aigre-douce qui annoncera la fin imminente de l'émission du jour. Juste avant le dernier morceau, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode ou les précédents n'importe quand en podcast sur radiopulse.fr ou sur toutes les plateformes de streaming en tapant La Cabane. Ensuite, vous choisissez la petite image avec le feu de camp. La playlist des chansons diffusées dans l'émission ainsi que les sources que j'ai utilisées pour mes recherches sont disponibles en description de l'épisode. Aussi, je vous ai créé des playlists sur Deezer pour vous permettre de réécouter uniquement les chansons diffusées entre les murs de la cabane pour vos apéros ou vos soirées raclette. C'est au choix. Afin de terminer notre route, là de la chanson la plus énergique vers la plus calme, j'ai décidé de clôturer l'émission avec un magnifique morceau de Céleste en featuring avec Gods Street Park aux instruments qui s'appelle Both Sides of the Moon, les deux faces de la lune. Dans ce morceau, la chanteuse de soul britannique, encore des britanniques, désolé, trois groupes britanniques aujourd'hui, nous raconte l'histoire d'une relation toxique entre elle et lui, tous deux représentant les deux faces de la lune. Céleste étant la lune et l'homme en question, les Marie, deux éléments ayant une relation interdépendante et surtout perpétuelle, qu'ils le veuillent ou non. Elle aimerait s'en détacher, Céleste, mais elle est toujours attirée vers lui d'une façon, je dirais, gravitationnelle. C'est le principe de la lune et des marées. Elles sont liées ensemble depuis la nuit des temps et le seront jusqu'à la fin des temps. Je vous laisse donc fermer les yeux et écouter ce morceau en imaginant le bruit des vagues qui ondulent, l'odeur salée du bord de mer qui s'accompagne d'une petite brise sur vos joues rouges toutes fraîches. À la semaine prochaine.
Myself when you ain't there. Now his hands are in my hair, his whispers in my head. That's it, I'm broken. Our love is tainted by the tide. Both sides of the moon. Both sides, both sides. place to go.